Rabadoo-bop.
Rabadoo-bop.
Bonjour à tous, c'est Alexandre au micro d'Empreinte. Nous sommes ensemble pendant une heure jusqu'à 19h avant l'émission Radio Latina. Aujourd'hui, on va parler théâtre. On va parler avec Gilbert Ponté dans une minute du joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est absolument somptueux. C'est au théâtre Essayon. Et ensuite, Agnès s'entretiendra avec Catherine Emmerich pour Darius, un texte de Jean-Benoît Patricot qui est tout à fait émouvant et magnifique et qui fait du bien par les temps qui courent. Gilbert.
Oui, bonjour.
Bonjour Gilbert. Gilbert Ponté, donc vous avez fait l'adaptation du joueur d'échecs.
Oui, effectivement. Oui, en plus j'ai fait une chose assez incroyable, je suis parti du texte italien pour le traduire en français.
Mais, pourquoi pas. Non, mais vous devriez le mettre dans le dossier que vous adaptation et mais bon bref, c'est pas grave.
Oui, c'est vrai.
On oublie des choses, mais c'est une chose importante quand même.
C'est une chose importante parce que j'ai pas traduit de l'allemand, j'ai traduit de l'italien.
Oui, je trouve c'est intéressant, c'est peut-être intéressant de le noter pour les prochaines en tous les cas. Voilà.
Tout à fait.
Alors, vous êtes au théâtre Essayon les lundis et mardis à 19h15. Précise jusqu'au 31 janvier.
Oui.
Et le spectacle fait à peu près 1h10. Voilà.
Oui,
c'est formidable. Donc vous vous installez pour les fêtes. Alors le 31, vous serez pas là ou vous serez là?
Je serai là peut-être, oui.
Bon, vous allez faire deux, 31 janvier. Non, c'est pas le.
Non, moi je serai le
vous serez juste la veille du voilà.
Voilà, oui, effectivement.
Alors, quelques mots, il faudrait en dire beaucoup plus, mais quelques mots quand même sur Stefan Zweig, qui est un écrivain d'origine autrichienne. Je dis d'origine puisque après il a été naturalisé. On va savoir comment et pourquoi, qui est un immense auteur, qui a une écriture tout à fait extraordinaire. Je crois que vous en parlez d'ailleurs un moment en disant que son écriture et ses textes sont à la fois d'une clarté et d'un déroulement, enfin c'est absolument imparable, et ça aide, hein, j'allais dire, parce que c'est l'œuvre est quand même très dense. Donc c'était quelqu'un qui était en fait d'un milieu bourgeois, hein, banquier italien, philosophie,
parce
etc.
Il a beaucoup voyagé, oui, effectivement, ouais. Un milieu très très important, hein, autrichien, et donc il avait quand même un majordome qu'il suivait, donc il
oui, était quand même, hein, de, quand même.
Oui, quand même, hein, pour voyager dans tous les pays, dans toutes les grandes villes d'Europe où il a sillonné, rencontré tous les intellectuels.
Ouais,
de l'époque,
après la Première Guerre, c'est vrai qu'il a été partout, de Berlin à Londres, en passant par le Canada. Après, effectivement, pendant la guerre, il a rencontré des intellectuels, et ça c'est important, comme Freud, Vera Rein ou Romain Rolland. Pourquoi Romain Rolland? Il le rejoint dans ce mouvement pacifique, donc le pacifisme actif. Et puis, il se rend compte, bon, assez très vite, que tout ça, ça va être une catastrophe. Et donc, il prône l'unification de l'Europe face à la montée du nazisme. Et puis arrive Hitler, et là, dès les premières persécutions, il quitte immédiatement l'Autriche pour aller en Angleterre, à Bath et à Londres. Il sera d'ailleurs naturalisé anglais, je crois, dans les années 40.
Tout à fait.
L'année d'après, il part pour le Brésil, sur le haut lieu de Rio. Et puis, en fait, il n'a pas supporté... Je me disais quand même, en regardant ces photos, qu'il devait être plus que neurasthénique. Mais, toujours est-il, c'est que effondré, et on peut le comprendre par tout ça, il a dû avoir une sensibilité en plus, bon, bien sûr, comme la plupart des artistes, assez énorme. Il s'est donné la mort, donc, en s'empoisonnant au Véronal, avec Lotte Hallmann, qui était sa seconde épouse.
Effectivement.
Alors, il a écrit des quelques romans, juste comme ça, pour des biographies, c'est peut-être moins... voilà, mais encore, je les ai pas lus, mais enfin, Marie Stuart...
Ah, elles sont remarquables, donc, ces biographies. Oui, tout à fait.
Marie Stuart, ça pourrait m'intéresser.
Marie Stuart, Marie-Antoinette, vraiment, c'est vraiment assez remarquable, et puis même son dernier, une étude de Montaigne, sur Montaigne, également, donc, mais c'était un puits de science, hein, cet homme.
Alors, j'en verrai, parce que moi, j'ai lu La peur, la amok, la confusion, 24 ans, la vie d'une femme, évidemment, qui sont en plus souvent adaptés au théâtre. Et puis, en fait, Le joueur d'échecs est sorti un an après sa mort.
Effectivement, c'est le dernier texte qu'il a écrit. Après, d'ailleurs, il jouait lui-même aux échecs. Hein, enfin, pour ça.
J'imagine.
Oui, pour se tirer de sa solitude, il dit à un moment, il écrit à sa femme, à son ex-épouse Frédérique, qui a quand même suivi toute son œuvre et qui a rédigé tout ce qu'il a écrit, et avec lequel il a eu une correspondance jusqu'à la fin, jusqu'à l'avant-dernier jour de sa mort. On lui a écrit une dernière lettre à cette...
C'est étonnant.
Oui. Où il dit, bon, mais je serai beaucoup plus heureux, où j'irai, voilà, quelque chose comme ça. Hein.
Oui, c'est pour ça que je dis, voilà. Il me semble que ce grand écrivain avait plutôt quelque chose depuis le départ. Ça n'a on va pas. Il ne s'agit pas de tirer des plans sur la comète, mais il semble assez neurasthénique, hein, quand même. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà.
Alors, mais de toute façon, il décrit que les gens qui ont des passions exacerbées.
On est d'accord. À fleur de peau, etc. Qui ne supportent pas un certain. On ne sait pas quand ça se déclenche, mais il y a un moment où tout d'un coup, trop c'est trop.
Oui,
alors,
effectivement.
L'histoire, en quelques mots, c'est on est sur un paquebot qui l'emmène en Argentine. Le conteur, en fait, c'est Stéphane Zweig lui-même, rencontre plusieurs personnages. Alors, ils sont très, très étonnants. Il y a ce fameux champion du monde, dont on va beaucoup entendre parler, évidemment, Zvetkovic, qui est en fait un paysan qui est sorti du fin fond de la Hongrie, mais qui était très doué pour les échecs, mais qui était, dites-vous, un abruti fini. Alors, on s'en rapproche peut-être pas tant compte que ça, je veux dire, dans l'adaptation. On voit plutôt quelqu'un qui se prend pas pour n'importe quoi, qui a conscience d'être un grand champion, qui regarde les autres un peu de haut, etc. Il est effectivement pas très fréquentable. Il est très intéressé par l'argent, naturellement, mais il est joueur professionnel, faut le rappeler. Et puis il y a ce docteur B qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est un homme cultivé, intelligent, qui raconte en fait son histoire. Et puis ces deux personnages, bien sûr, vont se retrouver pour une confrontation, c'est-à-dire une partie d'échecs. Je vais pas tout dévoiler la fin maintenant, même s'il y a pas un suspense. Non, mais moi je l'avais oublié justement la fin, donc autant ne pas la dire tout de suite. Hein.
Mais c'est deux monomaniaques qui se rencontrent en fait. Hein. De toute façon, c'est deux personnes qui sont complètement isolées dans leur passion quelque part. Hein. Tjentovic, lui, il est complètement isolé.
Complètement.
Dans son jeu d'échecs.
Mais le docteur B est plus intéressant comme personnalité. Quand même. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'intelligent, et c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Alors, c'est un peu le cœur du roman et de la pièce, qui va raconter, en fait, comment, ayant été fait prisonnier, interrogé régulièrement dans une d'abord une chambre d'hôtel, après on sait pas très bien, mais en tous les cas où il y avait pratiquement rien, donc il ne pouvait ni lire ni etc. Donc comme il était cultivé pendant un certain temps, il s'est récité les poèmes d'Homère etc. qu'il connaissait. C'est vrai que ça aide au départ, mais qu'il y a un moment où ça craque. Et puis un jour, en étant emmené à un interrogatoire et n'étant pas surveillé de trop près à ce moment-là, il y a un manteau, une redingote qui est dans la pièce, et il voit quelque chose, il se dit c'est peut-être un bouquin. Et donc effectivement, il va s'en saisir, il va le mettre, il va le cacher dans son pantalon, il ne sait pas du tout ce que c'est, et en fait, il va tomber sur un traité d'échecs. Alors, je suppose qu'il était peut-être un peu déçu au départ, mais en tous les cas, c'est ce qui va le sauver.
Effectivement, il va trouver quelque chose à faire, en fait. Hein, ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, il peut pas vivre s'il n'a pas un objectif, s'il n'y a pas une activité qui permette à son cerveau de travailler. Et en fait, c'est ça qui le sauve. Hein. C'est vraiment ça, c'est le fait de pouvoir réfléchir et penser et d'utiliser son intelligence. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage aussi. C'est quelqu'un de très intelligent, qui a besoin de nourriture spirituelle, de nourriture intellectuelle, de littérature, de mathématiques, de tout.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce personnage par rapport à l'autre qui est complètement abruti, fini.
Oui, d'abord, c'est une espèce de machine à jouer, mais c'est surtout un représentant formidable du nazisme.
Tout à fait. Et une espèce de justement d'abruti qui suit. Enfin, moi, je suis sensible. Je sais pas si bon, j'ai essayé de le rendre, mais on peut pas tout rendre. Et puis les gens aussi doivent.
Oui.
Le public doit se faire une idée et décoder un peu tous ces signes que Zweig nous envoie. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir que c'est l'intelligence qui est battue, et c'est ça qui est terrible. Et je pense que ça se reflète bien aujourd'hui. Ouais. C'est ça. On met en avant la bêtise et la sottise. Il suffit de regarder autour de nous.
Gilbert, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que malheureusement, c'est comme aujourd'hui, je veux dire, mais là, on était, en tous les cas, à l'époque, dans une période absolument dramatique. Mais ça fait mal de voir que c'est l'intelligence, et la raison, voilà, qui sont complètement
mises à mal
par une espèce de machine probablement surdouée, mais qui est un personnage terriblement néfaste. Alors il y a un troisième personnage qui est extrêmement important qu'on va laisser découvrir, mais quand même qui est très haut en couleur, j'allais dire, et qui est aussi significatif d'une époque, hein, puisqu'on est dans les années de la guerre, et que ça a commencé un peu avant, qui est le personnage du capitaliste, qui annonce finalement, et c'est assez terrifiant aussi vu d'aujourd'hui, cet ultralibéralisme dans lequel on baigne, et n'oublions pas que tout ça, effectivement, est né dans ces années-là, un peu avant. Ce qu'on oublie complètement, enfin, je veux dire, tout ça est une politique qui vient de très loin.
Oui, effectivement.
Donc ce personnage, il a tout, je veux dire, il a le fric, il en est heureux, il est ructe à moitié, enfin il doit être extrêmement vulgaire, c'est évident. Et ça, on sent le plaisir que vous avez à représenter ce personnage, et ça c'est formidable, parce que on les voit tous, hein. Alors ce qui est extraordinaire, on va en parler, c'est votre façon à la fois de compter l'histoire et d'interpréter les personnages, et il y a un moment très rapidement où effectivement on les voit. Alors chacun voit peut-être un peu des choses un peu différentes, mais enfin quand même on les voit et ils vivent devant nous avec pas grand-chose sinon l'essentiel, c'est-à-dire le texte évidemment, et cette façon de nous le restituer, c'est-à-dire qu'en fait vous approfondissez à chaque fois votre travail de comédien-conteur, Vous avez vous trouvez une vraie sobriété corporelle, mais elle existe, c'est-à-dire que le corps est omniprésent, mais il y a une grande sobriété. Et puis, donc on est dans ce qu'on appelle, dans le bon sens du terme, un minimalisme du jeu et de la narration. Et ça, c'est un exercice qui est quand même très périlleux.
Oui, oui, c'est très périlleux, oui, c'est vrai. Mais ça se travaille, hein.
Sais bien que ça se travaille. Est-ce que vous vous rapprochez du théâtre de en Italie de... Je cherche son nom maintenant.
Ben de Dario Fo.
De Dario Fo, bien sûr. Parce que vous intégrez toutes les techniques, en fait, pour arriver à ça.
Oui, 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 tout à fait. Et j'aime beaucoup, moi, ce passage du conteur qui est un peu, qui prend à témoin, qui est le spectateur du spectateur aussi. Enfin, donc, et il permet, les gens, le public s'approprie ce personnage.
Ah, complètement.
Et le suit.
Complètement.
Voilà. Et donc, il est intime avec eux. Et je trouve que ça, c'est drôlement intéressant. J'ai réussi à construire cette manière de faire les
grâce
à ce texte. Parce que ce texte, en plus, bon, beaucoup disent, ah oui, il est triste, il est... Mais moi, je pense que il l'a écrit rapidement, ce texte. Et il y a de l'humour, non? Il y a quand même des choses...
Oui, je suis d'accord.
Il a un regard très... Parce qu'on a tendance toujours à l'assombrir totalement.
Non, il ne faut pas. Bon, c'est vrai que moi aussi, j'ai dit, bref. Mais non, il y a des choses magnifiques. Et dans tous ses romans et dans toutes voilà
sûr.
Et tout alors fait, on rit fait. Pas on rit pas aux éclats, c'est sûr, mais
ben non, on par sourit, contre on...
ce personnage Gilbert quand vous l'interprétez, c'est-à-dire quand il raconte, quand il fait son récit de quand il est prisonnier et de comment il va s'en sortir, c'est extraordinaire parce que c'est probablement le moment où vous bougez le moins.
Oui.
Et où on voit le plus un personnage. Vous voyez ce que je veux dire?
On est
complètement capté. Et on le voit, on l'écoute, on ne voit que lui, j'allais dire. Ça, c'est quand même assez phénoménal. Tout en sachant qu'il y a eu les autres qu'on a vus autour. Bon, et qu'on va retrouver après. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. On disait qu'il faut maîtriser, que vous deviez maîtriser plein de techniques. Alors, c'est vrai que le mime, le mouvement, la commedia dell'arte, etc.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, vous dites le corps doit être concentré l'espace dans lequel il évolue. Un travail vocal lui permet de différencier les personnages. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment sur un fil. Parce que vous avez toujours fait depuis le départ ce travail-là. Mais peut-être que là, c'est encore plus ça abouti, par exemple, parce que ça existait dans Michel Collas aussi, hein.
Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est encore plus phénoménal.
Oui, c'est ça.
C'est plus travaillé parce que je me suis dit, je vais en faire le minimum dans ce personnage parce que je savais pas trop comment le prendre.
Mais c'est vertigineux.
Je me suis dit, le texte est puissant.
Oui.
Voilà.
C'est vertigineux.
Je pense que c'est ça avec les grands auteurs, c'est qu'ils se mettent au service de d'écriture et d'un seul coup, ça se fait pratiquement tout seul, quoi. D'un seul coup, c'est l'auteur qui vous guide et qui vous emmène dans un endroit.
Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire comment, j'allais dire, avoir cette discrétion ou ce retrait, tout en ayant en même temps une présence, évidemment, puisque vous êtes en scène. Et là, vous atteignez, je crois, vraiment cet équilibre formidable, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est complètement abouti dans votre travail. Je voudrais juste citer la phrase de Brecht, qui est un exergue de mon dossier, qui est magnifique, qui résume assez bien les choses. L'espace vide permet d'éliminer tout ce qui peut rappeler l'initiation d'un lieu du monde et de refuser la figuration. C'est un espace vierge où l'acteur peut reconstruire un univers autonome dans lequel il sera possible de recréer des signes caractéristiques. Alors, on va continuer notre conversation un moment, Gilbert, mais on va marquer une pause musicale avec le nouvel album de notre ami Frasiak que je viens de recevoir. Et on va écouter un premier titre qui s'appelle « Ma jeunesse ».
« Ma jeunesse prend son temps pour plier ses bagages. Elle fleurit des printemps pour mes enfantillages. Des rêves adolescents dans les poings, dans les poches. Dans ce monde de grands, un enfant qui s'accroche. Il y a toujours un martien, un cow-boy, un pirate pour enlever aux gamins tous ces fils à la patte. Ma jeunesse ne sait pas ce que c'est qu'être sage. Elle aime quand le cœur bat le parfum de l'orage. À ses doigts, pas de bague, à son cou, pas de chaîne. Sa candeur fait des vagues dans les vieilles rengaines. Elle déterre des trésors à chaque amour qui passe, chaque nuit qui s'endort à des airs de palace. Ma jeunesse, ma jeunesse n'a pas d'âge mais ne se ride pas. Elle a fait le ménage sur ce qui compte pas. Sur qu'on dit qu'elle est folle, que perdue est la peine, que c'est comme de l'alcool dans son sang, dans ses veines. Elle ne se soumet pas au foutu temps qui passe. C'est une fille de joie qu'aucun flic ne ramasse. Ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse et courage au mur des lendemains. Elle se fout bien des cages où s'enferme chacun. Elle a gardé les yeux de la vie qui pétille, le rire des amoureux pour une peccadille. Et même si certains soirs elle est mélancolie, c'est toujours de l'espoir qui nourrit sa folie. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse. Ma jeunesse est comme ça. Elle est de toute jeunesse, de l'avenir plein les bras, émerde à la sagesse, insoumise et rebelle à la triste évidence. Elle envoie dans le ciel son chant de résistance. Parfois elle a mille ans, mais s'engueule et se bat, casque de cheveux blancs pour partir au combat. Ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse,
ma jeunesse. Dernier album qui vient de sortir d'Eric Frajac, qu'on adore, ça s'appelle Le tumulte des choses. Il est tout à fait inégalé, je crois, à l'heure actuelle. Il est à la fois dans la grande tradition, en même temps avec sa contemporanéité à lui. Il a énormément de. Il dénonce des choses, mais avec beaucoup de poésie, beaucoup d'amour et surtout pour l'être humain. Vous le connaissiez, Gilbert, Eric Frajac?
Non, justement, je suis content de l'écouter.
À découvrir, il y a tous ces albums, je crois qu'on les trouve facilement sur Internet. On l'aura au mois de janvier en entretien. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui vient de l'Est, et c'est quelqu'un qui pourrait paraître comme quelqu'un de dur, mais qui est en fait un grand tendre et qui a un talent absolument considérable d'auteur-compositeur. Voilà, Gilbert. Alors, je ne sais plus où on en était. On avait parlé des techniques de jeu, etc.
Oui, de jeu.
Donc, je tiens à dire que là, vous êtes vraiment, je crois que vous atteignez, moi, je peux le dire en tous les cas, et vous avez le droit de le penser, je veux dire, mais je pense que vous atteignez vraiment, comment dire, des sommets dans cette façon de conter, de raconter, d'être être dans votre corps présent, etc., avec, comment dire, visuellement, très peu de choses. Or, il y a plein de choses qui se passent, on vient d'en parler. Vous avez quand même des lumières sur scène qui créent
des ambiances.
Faudrait citer le. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous éclaire d'habitude ou pas, Antoine Le Gallo?
Non, pas du tout. Antoine, il a fait un travail avec moi. Je lui ai dit, il faudrait que ça participe de la dramaturgie, justement, que ça soit pas simplement bon, on va faire du joli, moi
bien
je
sûr.
Supporte pas quand c'est joli.
Oui. ça c'est dit, oui.
Oui, bah oui, parce que c'est bon.
Non, mais vous avez raison, Gilbert, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison.
C'est un mot que je déteste, moi, au théâtre. Quand des gens disent, oh, c'est joli, ah, je dis, oui, bon, c'est joli.
Hein, qu'est-ce que ça veut dire, en plus, ils sont pas capables de préciser, on peut parler d'une chorégraphie,
Non.
Voilà, mais...
C'est juste, pour moi, il y a des mots qui sont, c'est juste, c'est vrai, ça permet de faire avancer des choses, le texte, la dramaturgie, les situations.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais bon, c'est ça qui est important, c'est un train quand même. Voilà. Hein, c'est comme pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Hein. Et bon. C'est vrai que bon, il a fait tout un travail là-dessus. Et moi, je suis très content parce que c'est un jeune, et donc il faut aider les jeunes aussi. Hein, et alors, et puis bon, c'est pas facile d'éclairer quelqu'un tout seul comme ça.
Non, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Hein,
c'est
donc,
très bien fait et cette salle de l'Essaillon s'y prête parfaitement, parce que nous aussi, on est avec vous. Il y a une proximité qui crée quelque chose. Donc c'est très réussi. Je rappelle quand même, parce que c'est ça qui est important, que c'est jusqu'au 31 janvier, mais vous n'avez pas besoin d'attendre jusque-là, puisque ça vient de commencer, que le public est absolument enchanté.
Ils ont l'air contents.
Et
oui,
c'est lui. Ah ouais, non, mais ils le sont.
Voilà.
Lundi et mardi à 19h15 jusqu'au 31 janvier. Donc Gilbert Panté. Ah oui, l'adaptation. Pourquoi vous avez choisi le texte italien?
Mais parce que je trouvais que le texte français était lourd. Il y avait des lourdeurs dans la traduction, parce qu'elle est ancienne.
C'est ce que j'allais dire. Oui, peut-être qu'il faudra en faire une nouvelle. Hein.
Oui, et elle était un peu littéraire.
Je comprends.
C'est toujours très pesant.
Ouais.
Moi, c'est vrai que j'ai abordé ce texte aussi, c'était pendant le confinement, je me suis dit c'était très bien, ça me permettait de travailler là-dessus, sur cet enfermement. Et je peux rajouter une chose aussi
bien
sur la
sûr,
musique, qui
sûr.
Donne aussi une dimension, une mise en abîme, justement, intéressante sur l'époque, le jazz.
Oui, c'est formidable, ça aussi. Et là aussi, ça amène, et sur l'époque, et une forme de... Une vraie respiration, enfin une forme de légèreté, une espèce de contrepoint qui est formidable, hein. Qui est formidable.
Et puis les gens, je pense, imaginent le paquebot avec cette musique.
Ah oui,
on a eu tellement d'images, ça, de paquebot avec l'orchestre de jazz qui est là. Enfin bon, donc les gens automatiquement, donc ils font le rapprochement. Et ça, c'est intéressant aussi. Il faut utiliser un peu cette mythologie. Voilà.
Laissons les gens imaginer. Vous avez tout donné, je veux dire, dans cette représentation pour qu'on puisse se le présenter. Alors après, ce qui est, tant pis pour eux. Mais je veux dire, c'est une énorme réussite, Gilbert. Moi, je suis vraiment tellement ravi, parce que j'ai vu pratiquement tous vos spectacles, mais là, j'étais pas le seul, hein, des gens qui vous connaissent bien et autres, qui étaient complètement stupéfaits de cette, j'emploie certainement pas le mot de performance, mais de cette représentation, de ce travail, de cet aboutissement. Voilà, Gilbert. Je voulais juste dire, puisqu'on a parlé un peu de Zweig, mais c'est vrai que il a comme personne une façon de conduire un récit, Zweig. Il nous tient en haleine. Il maîtrise vraiment l'art de conter. C'est vraiment remarquable. Alors après, ne nous y trompons pas. C'est pour ça que c'est remarquable aussi. C'est qu'il faut enlever certaines lourdeurs, certaines choses. Donc vous avez bien fait au niveau du texte, parce que souvent, moi, j'ai lu des trucs, même de très bons romans que j'ai vus après au théâtre, en me disant, mais oula, je veux dire, il y a sûrement quelque chose à faire. Voilà.
Oui, effectivement.
Merci beaucoup, en tous les cas, Gilbert Panté.
Merci de m'avoir reçu au téléphone.
Ah, mais il n'y a pas de souci. À très vite, et puis je vais reviendre en janvier.
Merci
avec
beaucoup,
le plus grand plaisir.
Alexandre.
Merci, à bientôt, Gilbert.
À bientôt, merci. Au revoir.
On écoute On écoute un deuxième titre de l'album de Frazac, Le tumulte des choses. Ça s'appelle L'amour idiot. Et après, on parle théâtre avec Agnès et son invitée comédienne, remarquable comédienne, Catherine Emmerich, pour un texte non moins fabuleux de Jean-Benoît Patricot qui s'appelle Darius.
Depuis que toi et moi, on en pince, dans la vie on est comme des princes, les autres et leur petite cuisine, on s'en fout beurre ou margarine. T'es mon ordinaire, c'est super, je carbure tous les jours à ton air, on fait le plein d'amour, ça énerve qu'on soit jamais sur la réserve, même si tu mènes par le bout du nez, j'adore ces voyages en apnée, avec pour seule occupation. Ton cœur patio, ton cul passion. Paraît que l'amour ça rend idiot. En tout cas, ça fait le monde plus beau. Le mec cravate dans son écran peut me dire que l'époque est à cran. Aujourd'hui, plus envie d'entendre toutes ces infos bonnes à se pendre. Le cash, le pouvoir qui rend dingue, les calaches, les gamins qui se flinguent, le zorro des fâcheux fachos, le méchant, les bombes, les drapeaux, fini tous les fils à la patte, j'en ai ma dose des psychopathes, j'éteins la haine qui va, qui vient, plus que du bonheur en magasin. Paraît que l'amour, ça rend idiot. En tout cas, ça fait le monde plus beau. Au monde crado, dans les infos. De loin, je préfère l'amour idiot. La guerre, le virus, les vaccins, y en a plus quand je vais qu'à tes seins. Sur tes montagnes, je fais de l'escalade, pas trouvé mieux comme escapade. Glisser le long de ta peau d'or, ça vaut bien toutes les vagues d'Osgore. Tous nos frissons, c'est le paradis, la belle vie pour pas un radis. Y a du soleil dans ma guitare, envoler toutes mes idées noires. Comment veux-tu que je sois plus accro? C'est mon médoc anti-salaud. Paraît que l'amour, ça rend idiot. En tout cas, ça fait le monde plus beau. Au monde crado, dans les infos. Sûr que je préfère l'amour idiot. Paraît que l'amour, ça rend idiot. En tout cas, ça fait le monde plus beau. Au monde crado, dans les infos. Sûr que je préfère l'amour idiot. L'amour idiot. L'amour idiot. L'amour idiot.
Alexandre. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine Emmerich. Bonjour.
Oui.
Nous allons donc parler de Darius, la pièce dans laquelle vous jouez au théâtre Essayons à Paris.
Oui.
Jeudi, vendredi, samedi 21h, dimanche 18h.
18h, oui, oui.
L'histoire d'une rencontre entre Claire, directrice au CNRS, et Paul, un grand parfumeur veuf. Le fils de Claire est handicapé, condamné malheureusement. Il n'a plus comme faculté que l'odorat et le toucher. Et Claire, sa mère, demande donc à Paul, ce fameux parfumeur, de réaliser des senteurs spécifiques qui puissent lui rappeler des souvenirs, des moments de vie heureux qu'il a vécu. Barcelone, oui. Amsterdam, Rome, Star Wars, voilà. L'Égypte. Alors voilà, oui. Donc c'est le l'histoire de votre spectacle, enfin du spectacle dans lequel vous jouez Darius. On va voir voilà Paul qui va travailler dur, va sillonner l'Europe pour créer des petites fragrances hein, de souvenirs. Donc Catherine, aimeriez-vous interpréter Claire, la mère oui. De Darius? Alors une question comme ça sur tout ce qui est olfactif, odeur. On a tous des souvenirs d'enfance. Je sais pas, le parfum de sa grand-mère par exemple, l'odeur d'un meuble, mais oui. Moins de souvenirs récents olfactifs. Est-ce que c'est une mémoire spécifique, l'odeur?
C'est intéressant la question que vous posez parce que je n'y avais pas pensé. En effet. C'est vrai que quand on parle de souvenirs liés à un parfum, à une odeur ou à une senteur, c'est souvent des souvenirs lointains.
Tout
et
à fait.
C'est vrai que par rapport à quelque chose qui est plus immédiat, on y pense peut-être moins facilement.
Tout à fait. Les souvenirs immédiats, je dirais, ce sont plus des images, des situations.
Oui.
Et les souvenirs lointains peuvent être une odeur.
Oui.
C'est intéressant.
Oui.
Alors revenons à la pièce écrite par Jean-Benoît Patricot. Elle a été créée en 2016. Hein, il l'a écrite il y a 6 ans.
Oui.
Est-ce que vous savez pourquoi il l'a écrite? Il est passionné justement par cet univers olfactif.
Écoutez, je crois que en fait c'est une commande. C'est-à-dire qu'il est alors je ne sais plus qui lui a passé cette commande. Je me demande si c'est pas la FACD. Il y a une espèce de concours, mais je peux pas vous en dire tellement plus parce que c'est vrai qu'il nous a raconté un petit peu les origines de l'écriture de ce texte, mais je dois avouer que je ne m'en souviens plus très précisément. Mais je crois que c'était une commande. Et une commande autour du parfum. Et donc, ce dont je me souviens, par contre, c'est que lui, il en a fait le sujet principal de sa pièce, alors que les autres personnes qui concouraient en même temps que lui, c'était quelque chose de plus accessoire. Voilà.
Toujours est-il que c'est un très beau texte.
Absolument.
Un très, très, très poétique, très élégant.
Oui.
Dans lequel...
Ça touche à la poésie, hein, parce que en même temps, ça repose sur des bases scientifiques. Le pouvoir de réminiscence du parfum comme du goût a été reconnu comme étant, un effet réel. C'est une question de d'événements qui se passent dans le cerveau, de cellules qui sont reliées, tout ça. Je ne suis pas forte du tout dans ce domaine-là. Mais disons qu'il y a une vraie base scientifique à cette construction autour du parfum que Jean-Benoît a faite. Mais il y a aussi quelque chose de très très poétique et de de spirituel également.
Et puis il y a cette relation entre Claire et donc la mère qui va tout faire pour rendre son fils heureux, un amour démesuré pour son fils, et Paul, ce grand parfumeur. Hein.
Oui.
Alors le type de leur, voilà, c'est une relation, on va pas tout dévoiler, mais plus de respect. D'amitié, enfin de respect, puisque lui finalement il accepte d'aller aux quatre coins d'Europe pour recréer ses petits élixirs.
Il n'accepte pas tout de suite, hein. Mais assez rapidement, parce que dès qu'il rencontre Darius, il est convaincu du sens de cette démarche. Allô?
Oui. Oui, c'est ça, de cette démarche d'amour pour le fils, hein, pour le fils de Darius, justement.
Oui.
Alors, le procédé de narration est très intéressant puisqu'en fait, c'est une correspondance, hein, entre vous et Paul, hein, une lecture de courrier que vous adressez, cher Paul, et ensuite, cher Claire.
Oui.
Et ça donne beaucoup de vie je trouve, à l'histoire, aux événements.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a une progression dans l'écriture au début. Bon, faut faire attention à tout ce qui est échange épistolaire au théâtre, parce que ça peut être un petit peu... Il y a un parti pris de cher madame, cher monsieur, cher Paul, bien à vous, ceci, cela, qui, si on n'y amène pas une progression dramatique ou de la, avec de la vie, ça peut assez vite devenir un peu monotone. Mais c'est vrai que dans l'écriture même de la pièce, Jean-Benoît Patricot apporte au fur et à mesure des changements très subtils, très élégants et très fins, qui font que on sent que la nature de la relation entre ces deux êtres, qui se rencontrent rarement, va petit à petit évoluer et même aboutir à une amitié et à quelque chose de très intime. En fait, il y a une reconnaissance, je pense, de l'un et de l'autre. Ils sont tous les deux un peu des naufragés de la vie.
Oui, tout à fait.
Et grâce à cette relation, grâce à Darius, c'est Darius qui les fait se rencontrer. Hein. Oui. Et grâce à l'énergie que Darius va mettre à vouloir continuer à apprécier la vie grâce à ses parfums, puisque c'est lui qui propose cette idée à sa mère, hein. Ils vont arriver, on peut dire, à surmonter l'insurmontable.
Oui,
lui, un deuil dans lequel il est déjà placé, il est déjà... et elle, un deuil qu'elle sait qu'elle va devoir... auquel elle va devoir faire face.
Oui, c'est ça. On a l'impression que finalement, pour faire survivre Darius, eh bien, ils vont se rapprocher, Paul et Claire.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a à quoi pourrait ressembler le parfum Darius?
Écoutez,
on n'en parle pas. En tout cas, ce n'est pas évoqué dans la pièce.
Non, il n'est pas décrit, mais chacun peut imaginer. Ça repose aussi beaucoup sur l'imaginaire, cette pièce, hein, puisque grâce au parfum, il y a l'évocation de toutes sortes de lieux, de toutes sortes d'ambiances, il y a l'évocation de personnes aussi. Donc vraiment, c'est l'essence même du théâtre, hein, ça repose sur l'imaginaire. Alors, le parfum de Darius, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je l'imagine un peu épicé.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Quelque chose de chaleureux, d'un peu épicé et de vivant. Peut-être parce que les épices, c'est quelque chose qui nous ramène au goût.
Mmh. Qui nous fait du bien aussi, qui nous met en appétit.
Et qui nous met en appétit.
Catherine, on va faire une toute petite pause musicale.
Absolument.
Et on vous reprend dans 2-3 minutes, hein. Ne raccrochez pas.
Je ne pars
tout
pas.
De suite. Hein. Merci.
Avec son rire de fossoyeur, ses airs de voleur de bonheur, il passe sans rien dire certains soirs. Il marque du sceau de l'infamie les couplets de ma poésie, et quand il est là, c'est trop tard. Y a plus de Rimbaud, y a plus de verdure, juste un trou noir, une belle ordure qui m'attend avec son rasoir. Je me tords les pieds, je me casse les verres, et tous les mots vont de travers. Il fout le boxon dans mes histoires, le trou de mémoire. Je suis le boxeur KO dans ses cordes, ça me fait comme si j'avais des cordes embarbelées sur ma guitare. Dans les belles lumières sur la scène, je suis plus tout seul dans mes rengaines, c'est le grand duo du désespoir. Il a le regard de l'assassin qui veut se faire de l'alexandrin et me fait tomber dans un traquenard. Ça le fait bander d'être la vedette, pousse-toi de là le chanteur que je lui mette. Lui aussi veut son heure de gloire, le trou de mémoire. Je m'accroche au fil du temps qui passe, mais le funambule a bu la tasse. Je cherche l'amour dans les regards. J'ai l'impression qu'on ne voit plus que lui, toutes mes chansons des litanies, mes couplets tellement dérisoires. Tout fier de lui, faut qu'il parade, il invite même ses camarades, le trac, le stress, drôle de fanfare. Qui joue mon oraison funèbre, y a des démons plein mes ténèbres, c'est rien d'autre que l'enfer de l'art, le trou de mémoire. Demain je reprendrai la route, je m'éloignerai coûte que coûte de sa sale bobine à cauchemar. Mais je sais qu'il a des indices, il reviendra dans ma musique quand et où on peut pas savoir. Quand j'en aurai marre de sa gueule pour enfin rechanter tout seul et de nouveau être peinard, je dirai à un prompteur à gages, lui faire la peau, de faire le ménage, ne sera plus jamais tapis dans le noir. Je dirai à un prompteur à gages, lui faire la peau, de faire le ménage, ne sera plus jamais tapis dans le noir. Le trou de mémoire, le trou de mémoire, le trou de...
Le trou de quoi déjà?
Voilà, pardon, c'est Alexandre Laurent, je repasse la parole tout de suite. Bonjour Catherine.
Bonjour Alexandre.
Allô?
Oui,
voilà,
je suis là.
Voilà, ben on reprend l'interview. Donc nous parlons de Darius qui se joue actuellement au théâtre Essayons jusqu'au 11 décembre, les jeudis, vendredi, oui. Samedi 21h. Donc oui. Tout à l'heure à 21h et le dimanche oui. à 18h. Alors
voilà.
Catherine, donc
alors,
vous...
il y a une représentation supplémentaire le jeudi 8 décembre à 16h. je diffuse l'information.
Très bien, très bien. Donc les auditeurs peuvent réserver bien évidemment en appelant le théâtre Essayons ou sur
absolument.
Tous les sites Billets Réduc, etc.
Voilà.
Donc
voilà.
Catherine Emery, vous
oui.
jouez le rôle de Claire, la
oui.
mère de Darius, hein, cet enfant handicapé pour lequel elle veut créer des derniers bonheurs. Retrouver
oui.
les
oui.
des souvenirs.
Bah, il ne peut plus faire la chose qu'il aimait par-dessus tout, qui est voyager. C'est un jeune homme qui a un appétit de vie extraordinaire et un appétit de connaissance et de curiosité du monde magnifique. Mais malheureusement, il ne peut plus voyager parce qu'il a cette santé qui est très fragile. Et donc, il va lui souffler l'idée et elle va la saisir au bon de demander donc à ce grand parfumeur qui est joué par mon partenaire François Cognat. Un grand parfumeur, de créer des fragrances qui permettraient à son fils de continuer à voyager immobile par le souvenir et par l'imaginaire. Ce défi incroyable, qui paraît tout à fait improbable, va pouvoir être relevé grâce au talent et à la générosité de Paul, ce grand parfumeur, et donc Darius va pouvoir continuer jusqu'au dernier moment d'être en ouverture sur le monde et de voyager, même s'il ne peut plus voyager avec son corps, il voyage intérieurement par sa mémoire et par son imaginaire, et ça sauve tout le monde quelque part.
Oui, il y a des odeurs pour lesquelles ça marche, hein. Ça,
oui.
vous le dites, hein, vous remerciez Paul, ça a marché,
oui.
ça, le parfum de rhum, par exemple.
Oui, oui.
Le parfum de l'odeur de la pizza n'a pas forcément marché.
Oui. Alors ça, c'est la pointe d'humour, parce que c'est vrai que le sujet peut paraître assez sérieux, mais il y a beaucoup de joie, paradoxalement, dans ce texte et dans ce spectacle, parce que, vous savez, c'est comme les gens qui traversent des choses qui sont tellement dures, on se demande toujours, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, ils arrivent à trouver en eux, ils arrivent à puiser dans des forces et dans des ressources d'amour de la vie, tout simplement, qu'il faut qu'ils arrivent à faire face. Donc en fait, c'est aussi cette histoire-là, c'est qu'on a la possibilité de faire face à tout ce qui peut nous traverser et nous peut-être nous amener dans des zones de chagrin ou de désespoir a priori insurmontables. Il y a peut-être toute cette possibilité-là, et c'est grâce à l'amour, tout simplement. Voilà.
Alexandre.
Oui. Catherine, bonjour, ravi de vous avoir au micro. Je voulais juste
bonjour.
Redire quelque chose sur les odeurs. Moi,
oui.
j'ai une ou deux odeurs qui me... Alors, c'est pas qu'elles me restent, c'est que je retrouve dans une autre ville que la ville où je les ai senties.
Oui.
C'est-à-dire que c'était très précisément, pour être très précis, c'était à Londres, et il m'est
oui.
arrivé dans Paris ou ailleurs très fugacement de retrouver cette odeur, ou d'avoir le souvenir de cette odeur. Et ça, c'est très extraordinaire. Oui. C'est franchement très extraordinaire. Donc, ça fonctionne effectivement très bien pour ça. Et en cela, la pièce est formidable. Je voudrais aussi insister sur le fait que c'est une pièce extrêmement, malgré un sujet grave, extrêmement, entre guillemets, légère dans le traitement et extrêmement optimiste.
Absolument.
C'est une pièce d'amour, mais c'est une pièce d'amour pour tout le monde, mais c'est une pièce d'amour d'abord entre les trois personnages, car moi, en tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai imaginé que la relation entre la mère et le parfumeur était probablement plus ambiguë ou plus entre guillemets amoureuse qu'on ne pourrait le penser, et que donc c'est un trio d'amour, quoi, quelque part, et ça fait un bien fou à notre époque, hein.
Oui, ça fait un bien fou à notre époque. On a besoin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, en sortant, parce qu'on a joué la pièce au Festival d'Avignon, il y a beaucoup de gens qui, en sortant, nous disaient mais c'est absolument la pièce dont nous avions besoin par les temps qui courent après ce que nous avons traversé par rapport à l'épidémie, par rapport au confinement. C'est une pièce qui est faite pour relier les gens, comme toutes les pièces de théâtre et comme toute œuvre d'art, je dirais.
Mais peut-être particulièrement celle-ci. C'est pas toujours le cas, hein.
Dans
l'absolu, ça devrait, effectivement. Comme la musique, la lecture, etc. Mais on est souvent déçu. En tous les cas, moi, je l'avais vu bien avant. On en avait parlé. Et donc, il n'y avait pas toutes ces histoires de confinement et autres. Et j'avais été à la fois bouleversé et heureux. Donc je me dis qu'effectivement, là, à l'époque actuelle, j'ai malheureusement pas trouvé le temps, Catherine, de venir vous voir, si je peux d'ici, parce que je pars vers la mi-décembre, mais si je peux venir, je viendrai avec le plus grand plaisir. Mais je sais que vous êtes la parfaite interprète pour ce rôle, avec votre sensibilité, etc. Et je sais que votre partenaire est quelqu'un de remarquable aussi.
Absolument, je crois que réussite de la pièce, bon, c'est un ensemble de choses, parce qu'il y a aussi, il faudrait évoquer aussi la mise en scène, la mise en scène d'André Nerman, qui part des choses très simples, mais vous savez, la simplicité sur scène, ça demande beaucoup de travail.
On est d'accord.
Mais par des choses
On
très simples, arrive à faire vivre cette histoire, à la faire suivre, et peut-être à lui donner les crins dont elle avait besoin. Mon partenaire, il y a un équilibre, je crois qu'on peut le dire, entre les deux interprètes et entre les deux personnages, et que sans cet équilibre, les choses ne seraient pas pareilles. Que le plaisir de jouer, il est aussi dans cet échange, même s'il est un peu particulier, puisque c'est un échange épistolaire, et qu'ils ont rarement des contacts, immédiats, des contacts directs.
Néanmoins, on les voit, on a l'impression qu'ils sont ensemble.
Absolument.
On sait très bien ça.
Quelque part, ils sont faits pour se rencontrer.
Donc, du coup, c'est matérialisé, j'allais dire.
Et je pense que, alors, pour revenir un peu sur ce que vous disiez, moi, je suis heureuse quand le public imagine ou rêve autour d'une relation entre Paul et Claire.
Ouais.
Je pense qu'ils sont tellement pris par des choses que pour moi, c'est un petit peu, en tout cas au départ, comme deux naufragés qui se raccrochent l'un à l'autre en plein océan. Et leur rencontre se situe presque au-delà
d'une
simple, entre guillemets, relation amoureuse.
Complètement. On est au-delà.
C'est peut-être plus fort encore.
Oui, je suis d'accord.
Alors, je ne sais pas si ça peut être plus fort, je ne sais pas.
Mais en tous les cas, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, en tous les cas, Catherine. Je repasse la parole à Agnès. Et puis, à très bientôt, en tous les cas.
À très bientôt.
En effet, on sent qu'il y a une osmose parfaite entre Paul et Claire. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de avoir dans cette pièce. Un petit mot peut-être sur la mise en scène, en effet, dont on parlait tout à l'heure. Alors, les deux bureaux, je trouve que la lumière est très belle, très intimiste. Et ces petits flacons, posés sur le bureau du grand parfumeur, nous mettent tout de suite dans cette ambiance, de senteur, de beauté et de création. Très belle mise en scène. Voilà,
André
très bien.
Nerman.
Voilà, oui.
Et scénographie de Stéphanie Laurent.
Très bien, merci
beaucoup.
Et la
lumière de Kostas Asmanis.
Voilà. On cite les comédiens, vous, Catherine Emery, François Cognard, on en a déjà parlé, mise en scène André Nerman, et le texte de Jean-Benoît
Patricot
et Darius, donc jusqu'au 11 décembre à 21h. Merci Catherine Emery, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup Agnès pour cet entretien. On va se quitter jusqu'à la semaine prochaine avec un dernier titre donc de ce nouvel album de Frazac qui s'appelle Le tumulte des choses. Et le titre, c'est tout simplement le Aubercail. Aubercail. C'est retour chez soi. Je rajoute que Eric est probablement l'un des artistes qui est le plus en déplacement. Il fait au moins 200 à 300 dates. Il va partout dans tous les lieux.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.